Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir le livre pour lequel le plus de monde a donné sa vie, pour que nous l'ayons encore. Les gens sont morts pour que nous l'ayons encore. Donc ouvrons-la avec joie, mais respect et encouragement dans l'épître de Jacques. Jacques 1, et nous lisons les versets 1 à 12, et la prédication portera sur les versets 9 à 11. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et nous allons lire encore deux autres textes qui vont nous aider à comprendre ou qui font écho. Le premier se trouve dans Jérémie, Jérémie 9, versets 22 à 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Et un autre passage, ce sera donc une parabole que Jésus a racontée dans Luc 12, en lien avec une tentation liée à la richesse. Luc 12, versets 15 à 21. C'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. » Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sert-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, c'est en reconnaissant notre pauvreté spirituelle que nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, d'être quelque part élevé vers Dieu. C'est ce que nous désirons ce matin, que son esprit nous élève vers Dieu. Ne prenons pas les textes bibliques de haut, en fait, en pensant qu'on a tout compris. Parce que quand on prend les textes bibliques de haut, on disait qu'on a tout compris, eh bien, nous ne demandons pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et non, nous en avons vraiment besoin, puisque nous voulons comprendre cette parole selon ce que l'Esprit a voulu dire. Et comme on l'a vu ce matin dans hein, dans Pierre, eh bien cette notion qu'il n'y a pas plusieurs façons de comprendre les choses. Il y a une richesse, c'est vrai, mais il y a une façon de comprendre que l'Esprit de Dieu veut nous montrer. Nous comptons donc sur l'Esprit de Dieu aujourd'hui encore. L'épître de Jacques, sûrement la première lettre écrite du Nouveau Testament. C'est quand même intéressant, on a là la première lettre qui est écrite. Il n'y avait encore rien d'autre. On ne sait pas s'il y avait déjà Matthieu, ça c'est encore une énigme, mais c'est la première lettre qui était écrite. Eh bien, elle nous guide sur le chemin d'une vie de sainteté. Elle nous guide en fait sur le chemin d'une vie de sainteté qui est en fait une vie de foi conséquente et remplie de sagesse. Ça, c'est le résumé de Jacques, en fait. Elle nous guide sur un chemin d'une vie de sainteté qui est en fait une vie de foi conséquente, remplie de sagesse. On pourrait dire pour vivre, en fait, dans toutes les circonstances, selon Dieu. Jacques nous met tout de suite dans le sujet lorsqu'il commence par dire que nous devons considérer les épreuves comme un sujet de joie. En fait, il veut nous faire voir plus loin. Il veut nous aider à ne pas avoir la tête dans le guidon, mais à considérer les effets, les conséquences de ce que nous traversons. Qui ne voudrait pas posséder et vivre la patience à toute épreuve ? Fabuleuse ! Avoir la patience à toute épreuve. Eh bien, Jacques dit justement que ce sont les épreuves qui forgent cette patience. C'est les épreuves qui forgent cette patience et qui amène à la maturité. On pourrait dire que notre degré de patience, et je ne parle pas juste de la patience qui est visible, hein, parce qu'on peut avoir une forme de patience que les autres voient, mais à l'intérieur, ça peut être très différent. Moi, je parle du tout, hein, vous connaissez ce qui se passe à l'intérieur. Donc, notre degré de patience est en lien avec notre degré de maturité. Et donc, c'est encourageant parce que Dieu veut nous faire progresser. Et nous allons progresser par la grâce de Dieu. Alors c'est vrai que c'est un petit peu perturbant dans la vie chrétienne, je fais une petite parenthèse là, c'est que plus on progresse, plus on se rend compte que c'est pire que ce qu'on pourrait être. Mais n'ayez pas peur, quand vous vous rendez compte que c'est juste, dire on est très loin de la perfection, plus nous nous rendons compte de cela, en fait, plus nous progressons. Et ce qui est beau, c'est que parfois quand Dieu nous permet de regarder un peu en arrière, on se rend compte que, merci Seigneur, ma patience a progressé, mais Seigneur aide-moi parce qu'elle est très loin de la perfection. Voilà, c'est normal en fait, hein, faut pas vous avoir peur de cela. Or, comment vivre les épreuves en les considérant comme étant un sujet de joie afin de progresser dans la patience? Eh bien, c'est en ayant de la sagesse. Voilà pourquoi Jacques nous parle de cette sagesse que l'on va demander et qu'il dit qu'il faut la demander avec foi. C'est-à-dire avec une foi conséquente, qui ne demande pas et ensuite fait autrement que ce que Dieu a indiqué. Hein? Jacques ne parle pas ici d'un manque d'assurance. Quand il dit « celui qui n'a pas la foi ne reçoit pas », c'est pas « j'ai pas l'assurance qu'il me le donne ou je ne le recevrai pas ». Non, c'est quelqu'un qui manque de conséquences. Donc soit on demande à Dieu et on agit comme il demande, soit on ne demande pas. Ou de toute façon, si on demande et on n'agit pas selon ce qu'il demande, on ne reçoit pas. Ça, nous l'avons déjà vu ensemble les dernières fois, donc je ne vais pas réexpliquer tout cela. Mais aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les versets 9 à 11 qui nous intéressent. Et je vous informe tout de suite que pour moi, il y a un lien avec le contexte de l'épreuve, de la sagesse et de la foi mise en pratique avec ce passage, hein, qui nous parle d'un type d'épreuve ou de tentation avec ses deux facettes. C'est en fait l'épreuve des biens matériels, avec sa facette de manque et sa facette d'abondance. Nous vivons en fait dans la partie la plus riche du monde. Mais nous avons changé la bénédiction de Dieu en idole. Jésus a bien dit, hein, que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le petit nom de l'idole de l'argent, si j'aime. Il n'est pas possible de servir deux maîtres. Un riche peut être tenté de vivre pour l'argent. Mais un pauvre peut l'être tout autant, même sans l'avoir. Comment alors réagir pour que l'épreuve financière soit considérée comme un sujet de joie et vécue avec sagesse? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Et les deux premiers points seront ceux-ci. De quoi le pauvre doit-il se glorifier? Premier. Deuxième point. De quoi le riche doit-il se glorifier? Et nous terminerons par nous poser la question. Comment traiter les pauvres et les riches à la gloire de Dieu? Alors commençons par notre premier aspect. Donc là, le verset 9, vous l'avez sous les yeux, je vous encourage à l'avoir, vous l'avez dit ceci, « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. » Donc pour répondre à la question de quoi le pauvre doit-il se glorifier, nous allons explorer trois domaines. Le premier, c'est comment vit un frère d'une condition humble et quelles sont ses tentations ? C'est sa vie, ses tentations. Deuxièmement, que veut dire se glorifier ? Je pense que c'est quand même utile de le préciser ici. Et troisièmement, de quoi le pauvre doit se glorifier ? Assez simple, on suit le texte. Donc si vous avez déjà les réponses, super, gardez-les en tête, puis vous comparez. Et puis on approfondit ensemble. Alors premièrement, comment vit un frère d'une condition humble et quelles sont ses tentations ? Or, quand il est question de condition humble, cela signifie ici en bas de l'échelle socio-économique. Donc en principe, avec peu de moyens financiers et sans pouvoir. C'est ça que Jacques dit ici. Donc c'est plus que juste simplement pas avoir de l'argent. Là, il y a un autre mot qu'il utilisera un peu plus loin d'ailleurs dans Jacques. Ce frère ou cette sœur dans la foi est conscient de sa misère. Il est reconnaissant pour tout ce qu'il peut acheter ou recevoir. Il est conscient de ses manques et il est poussé chaque jour à s'adresser à Dieu pour ses besoins. Voilà ce qu'il vit. Sa situation donc le pousse à faire confiance à Dieu pour chaque besoin. Sa situation, cette condition humble, le pousse à faire confiance à Dieu pour chaque besoin. Mais le frère de condition humble peut aussi avoir ses tentations. Et une tentation est d'envier ceux qui sont plus riches. Si seulement j'avais. Envier ceux qui sont plus riches, qui ne se demandent pas ce qu'ils vont manger demain, qui ne se posent pas la question s'il faut renoncer à quelque chose parce que j'arriverai pas à payer la facture à la fin du mois. Le pauvre est aussi tenté, donc là d'envier, mais aussi de s'irriter, parce que lui il agit avec justice et souvent ceux qui font le mal sont riches. Donc il y a une tentation de s'irriter quelque part. Moi je fais ce qui est juste. Et puis il y en a qui font le mal, puis ils sont riches. Alors vous connaissez un psaume. Là, il y a un psaume qui devrait toujours venir en tête quand on parle de ça. C'est lequel ? 73, exactement. Ou 73 si jamais, s'il y a des Français. Donc 73, c'est vraiment le psaume qui doit nous venir en tête. Mais celui-là, je vous laisse aller lire à la maison. Moi, j'aimerais vous amener dans un autre psaume. Mais le psaume 73, il fait le cheminement d'une personne qui est dans cette situation-là. Hein, et il fait tout le chemin. Mais il y a un autre psaume intéressant. C'est le psaume 37. Le psaume 37, donc on peut aller regarder. Quand on va regarder dans une Bible en russe, je pense en ukrainien la même chose, c'est 36. Hein. C'est pas le psaume 37, c'est un de moins si jamais. Donc là, c'est le psaume 37 en français. Et je lis simplement les premiers versets. « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. » Car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Demeure dans le pays, et prends la fidélité pour pâture. Assez semblable à ce qu'on lit dans Jacques aussi. Hein? On verra, on parlera aussi de cette fleur qui flétrit, etc. tout à l'heure. Donc voilà une des premières tentations qu'on peut avoir en étant humble. Hein? Une autre tentation pour le pauvre est d'utiliser des moyens illicites pour se nourrir ou pour s'enrichir. Hein, utiliser des moyens illicites pour se nourrir ou s'enrichir. Or, tous ceux qui connaissent les classiques de la langue française se souviennent bien sûr de Jean Valjean, hein, des Misérables, de Victor Hugo, qui a été arrêté. Pourquoi ? Savez-vous pourquoi il a été mis en prison tout au début ? Parce qu'il a volé du pain, parce qu'il avait faim. Et pas que lui d'ailleurs, sa sœur et ses 7 enfants. Une tentation pour le pauvre est d'utiliser des moyens illicites pour se nourrir. Agour, dans les Proverbes, indique cette tentation du pauvre. Dans Proverbes 30, versets 8 et 9, il est dit ceci. « Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de Dieu. » Jacques sait que la plupart de ses destinataires sont pauvres et il les encourage donc à se glorifier de leur élévation. Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire se glorifier ? Hein, c'est ce qu'on disait avant. Ça veut dire quoi ici ? Il ne s'agit pas de commencer à s'enorgueillir, à se mettre au-dessus des autres, à pavaner et se rendre intéressant. Non, non, non. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit ici de se rappeler son identité, sa richesse, que personne ne peut enlever, la chose la plus précieuse qu'il possède. J'ai une petite question. Si vous deviez me dire maintenant, qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous dans votre vie? Que me répondriez-vous? Est-ce que vous diriez la même chose si c'est un collègue qui vous posait la question? Ou un voisin? Ou un copain d'école? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous et que vous ne voudriez pour rien au monde laisser? En fait, se glorifier ici, c'est parler de ce qui est le plus précieux pour nous, de ce que nous avons qui compte le plus pour nous. C'est ce qui nous rend fiers, c'est que ce que nous valorisons qui est si précieux que nous ne le donnerions pour rien au monde. C'est ça se glorifier. Ici. C'est parler de ce qui est le plus précieux pour nous, de ce que nous mettons le plus de valeur dans notre vie, ce qui nous rend fiers et que nous ne donnerions pour rien au monde. Certains disent que l'idée contenue dans le verbe ici traduit par se glorifier est avoir une joie fière et triomphante. Donc ici, que celui qui est que le frère de condition humble ait une joie triomphante de son élévation. Donc j'espère qu'on comprend maintenant un petit peu mieux ce que signifie se glorifier. Oui, mais alors de quoi se glorifier? Ça c'est la troisième partie ici. De quoi se glorifier? Eh bien celui qui est de condition humble ne peut pas s'élever par ses moyens ou sa position sociale aux yeux du monde. On peut pas, c'est pas possible, il est en dessous. Bon. Mais celui qui est en Christ connaît sa véritable identité. Jacques dira d'ailleurs un peu plus loin dans chapitre 2 verset 5, il dira, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde? On là, utilisera le terme qui est en lien avec une pauvreté financière. Les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et hérités du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. C'est un renversement, là. Cette richesse, nous la trouvons dans beaucoup de passages du Nouveau Testament. Et j'aimerais vous en donner trois. C'est un échantillon, simplement, de quelques passages que je vous invite à relire aussi dans des moments où on se sent des fois un peu écrasé, peut-être. Par exemple, 1 Pierre 1, 3 à 7. Alors, et dans vos billes, si vous êtes dans Jacques, eh bien, c'est juste après. Après Jacques, c'est 1 Pierre. 1 Pierre 1, les versets 3 à 7. Et donc là, lisez-le pour celui qui est en Christ, lisez-le en ayant en perspective toutes les richesses qui sont dans ce texte. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Un héritage qui ne va jamais diminuer. Il n'y a pas d'inflation dans le royaume de Dieu. Et gardé par cette foi qui est une confiance de ce que l'on ne voit pas encore, mais qui nous est promis. Et elle est gardée par la puissance de Dieu cette foi. Ça, c'est un élément important ici, dans notre encouragement. Et cette foi sera honorée. C'est un peu comme un écho à ce que Jésus disait à celui qui voulait être guéri. Qu'il en soit fait selon ta foi. Vous saviez ce qui se passait après? C'est quand même intéressant de voir dans la Bible. Ils étaient guéris. Tu te dis, mais attends, mais c'est une foi que Dieu leur avait donnée. Qu'il en soit fait selon ta foi. Jésus voulait les guérir. Et cette foi, vous êtes partie de cette œuvre. Qu'il en soit fait selon ta foi. Et Dieu nous garde dans cette foi en Jésus-Christ. Un autre texte que j'aime beaucoup reprendre quand vous voyez que votre corps ou des gens autour de vous ont un corps qui commence à dépérir, qui est difficile, etc., que ce soit par la maladie dans la jeunesse, que ce soit dans la vieillesse, etc. C'est un texte que moi j'aime beaucoup relire. Or, je vous le partage, c'est dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. Donc un texte très encourageant, parce qu'il nous permet de nous fixer sur ce qu'il ne va jamais fadir, si vous voulez, ou flétrir. Le monde ne nous pousse pas à regarder à ces choses-là. Il veut qu'on regarde aux choses visibles. Mais connaissez-vous une chose visible qui ne se décrépit pas? Non. Nous ne nous glorifions pas dans les choses visibles, mais dans ce qui est invisible à l'œil, qui va durer. Comme par exemple la justification en Christ, ça va durer. Ou l'amour de Dieu envers nous, que personne ne peut nous enlever. Et qui signifie d'ailleurs qu'il prend soin de nous pour le bien à long terme assuré. Un troisième texte, Romains 8, 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Rien n'est plus élevé que Christ. Rien n'est plus merveilleux que sa gloire. Rien n'est plus apaisant que sa paix. Rien n'est plus libérateur que son salut. Qu'est-ce qui est le plus précieux, ce pourquoi je veux être fier? C'est la question que nous avons. En fait, lorsque je me glorifie de Jésus-Christ, en qui je suis élevé, glorifié, guidé, encouragé, fortifié. Donc quand il est dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, en fait c'est se glorifier d'être en Christ, de tout ce qu'il a fait et qu'il nous donne, et qui en fait est une élévation. Christ s'est abaissé et il a été élevé, et en lui nous sommes élevés. Donc à quoi attachons-nous le plus d'importance? Si on te demande ce qui est le plus précieux pour toi, que diras-tu? Ou peut-être la semaine qui vient, ben pourquoi pas dire à quelqu'un qu'est-ce qui est le plus précieux dans ta vie? On peut aller plus loin. Si on te demande rien, mais qu'on te regarde, qu'est-ce qu'on dira qui est le plus précieux pour toi? Je pense que c'est important parfois de chercher à vivre intentionnellement. Et ça ne se fait pas forcément automatiquement. Parce qu'on est dans un monde déchu, le péché est présent aussi pour nous. Donc intentionnellement, nous voulons vivre de manière à manifester ce qui est le plus précieux pour nous. Et ce que je peux nous rappeler, c'est que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Si nous pouvons voir Dieu comme précieux pour nous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Si précieux qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Pour sauver tous ceux qui se repentent et croient en Christ. Bon d'accord, nous avons parlé des personnes de condition humble, mais bon, Jacques parle aussi des riches. Ok, on y arrive. Or, de quoi le riche doit-il se glorifier? Alors, lisons le verset 10 et 11. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Vous vous dites peut-être, ah ben... moi, je veux bien prendre part à l'épreuve de la richesse. Moi, je veux bien, en fait, que j'ai tout l'argent du monde pour faire ce que je veux. Ça serait génial, non? Je pourrais faire tout ce que je désire. Je pourrais même donner à l'église, aux pauvres. Voyez? Mais qu'est-ce que la vie d'un riche? Bon, déjà, qu'est-ce qu'un riche? Alors, un riche, selon Jacques, n'est pas forcément celui qui est plus riche que toi ou que moi. En fait, si nous mangeons chaque jour à notre faim, qu'on a un lieu pour vivre au chaud et même des habits de rechange, nous sommes riches. En fait, on peut déjà comprendre les tentations des riches. Connaissez-vous les tentations des riches? Savez-vous qu'il est spécifié nulle part dans la Bible qu'il est difficile pour un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux? Il est spécifié nulle part dans la Bible qu'il est difficile pour un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux. Par contre, cela est précisé pour le riche. Cela est précisé pour le riche, c'est Matthieu 19, hein, 23-24, par exemple. Pourquoi? Parce que le riche est tenté de penser qu'il a tout ce qu'il faut, qu'il peut acheter la sécurité. Il a tellement de possibilités d'étouffer ce qu'il entend le dimanche. Enfin, si encore il est à l'église et qu'il écoute. Jésus a parlé de ça dans la parabole des terrains, que la richesse peut être un terrain épineux. Hein, Marc 4, 18, il disait « D'autres ont reçu la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Le texte des Proverbes rapportant les paroles d'Agour, que nous avons déjà entendu tout à l'heure, ne parlait pas seulement de tentation pour les pauvres, mais aussi celle des riches. Vous vous souvenez ? « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. » Après, il dit « De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et dise « Qui est l'Éternel ?» En fait, celui qui est riche se dit « Ben, j'ai tout, j'ai pas besoin de Dieu. Qui est Dieu ? Pourquoi j'en aurais besoin ? J'ai ce qu'il me faut, enfin, j'ai même plus. » Exactement comme le peuple d'Israël quand tout allait bien dans le pays promis. Quand tout allait, j'avais plus besoin de Dieu. La parabole de l'homme riche qu'on a entendu tout à l'heure dans Luc 12, nous parle encore de la tentation de la cupidité. C'est quoi la cupidité? Même pour ceux qui parlent français, c'est peut-être un nouveau mot d'ailleurs. La cupidité, c'est un désir inarrêtable de vouloir toujours plus. Toujours plus d'argent, toujours plus de richesse. C'est ça la cupidité. C'est en fait un désir inarrêtable de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Enfin bon, vous comprenez. Mais alors qu'est-ce que Jacques propose aux riches? Eh bien Jacques propose aux riches de regarder les fleurs. Oh, c'est pas parce que Jacques devient tout à coup romantique. Mais il veut que le riche se rende compte que ses biens et sa position sont de très courte durée face à l'éternité. Tout le monde meurt, même les plus riches. L'avez-vous déjà remarqué? Tout le monde. Et le psaume 49, que je vous encourage à lire dans son entier, permet une saine réflexion justement à ce propos. Je vais juste lire trois versets donc dans le psaume 49, mais vous pouvez lire tout le chapitre parce qu'il est en lien avec ce sujet-là. Le psaume 49, verset 11, dit ceci, « Car on le verra, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également en laissant leurs biens à d'autres. » Ou bien versets 17 et 18, « Ne sois pas dans la crainte quand un homme s'enrichit, quand la fortune de sa maison s'accroît, car il n'emporte rien en mourant, sa fortune ne descend pas à sa suite. » Malgré toutes les croyances que certains peuvent avoir, qui a fait que des gens qui ont fouillé dans des tombeaux en Égypte bien des années après se sont enrichis, parce qu'ils pensaient qu'ils le prenaient avec eux. Pour ça qu'ils mettaient toutes ces richesses, ils mettaient même des personnes vivantes avec eux, c'est juste horrible. Non. Cette image de la fleur de l'herbe qui se flétrit et qui passe doit permettre aux riches de comprendre qu'il ne doit pas s'attacher à ce qui va disparaître. En fait, le riche ne doit pas s'attacher à ce qui va disparaître. D'ailleurs, c'est insensé de s'attacher à quelque chose qui disparaît. C'est comme si vous mettiez une corde pour faire un rappel. Vous savez ce que c'est un rappel? C'est quand on descend un grand rocher. Vous mettez une corde et puis vous mettez une corde sur sur quelque chose qui est en train, un bloc de glace qui est en train de fondre. C'est la même notion. C'est en fait s'attacher à quelque chose qui va disparaître. Vous n'êtes même pas au milieu de la descente, puis il n'y a plus de glace et plus rien. Bon, je vais pas vous expliquer. Vous savez tous que ce qu'on voit maintenant autour de nous va disparaître. Pour regarder autour de vous. Moi aussi, hein, disparaître. Vous savez qu'ici, il y avait des vignes avant. Ils ont disparu. Puis dans 200 ans, qu'est-ce qu'il y aura ici? Mais j'en sais rien. Enfin, nous, moi et vous, on ne sera plus là. Ça, je le sais. Mais on ne sait pas. En fait, s'accrocher à ce qui disparaît n'est pas un sujet de gloire fiable. Pas du tout. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui demeure? On va aller dans Ésaïe, parce qu'en fait Jacques, en parlant cette fleur de l'herbe qui se dessèche, etc., il fait en fait une allusion à un texte dans l'Ancien Testament. Et en fait, souvent, quand quelqu'un fait une allusion à un texte dans l'Ancien Testament, en allant lire le texte, tout à coup on a un élément nouveau qui nous vient, parce qu'il prend le tout. Donc si on voit Ésaïe 40, versets 6 à 8, on va voir un élément qui demeure. Donc là, il a juste parlé de ce qui reste pas, ce qui disparaît. Mais dans Ésaïe, il est parlé de ce qu'il reste. Donc Ésaïe 40, versets 6 et 7. Une voix crie, il répond, que crierai-je ? Toute chair est comme de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Qu'est-ce qui subsiste éternellement ? La parole de Dieu. Premier élément. Si nous regardons maintenant dans le psaume 103, au verset 13 à 18, qui parle aussi de cette notion de choses qui disparaissent, comme un père a compassion de ses fils, donc psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lien qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils. » Qu'est-ce qui dure éternellement ? La bienveillance de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Donc le riche, pour bénéficier de la parole de Dieu qui demeure éternellement, doit s'humilier et accepter qu'il n'a pas raison, qu'il n'est pas lui-même la vérité, qu'il n'est pas la référence, qu'il n'est pas Dieu. C'est la tentation du riche, ça. Parce qu'il s'accroche à ce qui disparaît, puis c'est lui-même le Dieu. En fait, il doit s'humilier. Et en s'humiliant et en disant qu'il n'est pas et qu'il n'a pas lui-même la vérité, il pourra recevoir cette parole éternelle de Dieu. Et deuxièmement, le riche, pour bénéficier de la bienveillance de Dieu, doit craindre l'Éternel. Or, en apprenant à connaître Dieu par sa parole, il se rend compte que ses péchés le coupent de Dieu. Il doit s'humilier, reconnaître son péché et s'en repentir. Il doit quitter l'amour de l'argent, car il n'est pas possible de servir deux maîtres. Soit c'est Dieu qu'il sert, alors il recevra sa bienveillance éternelle, ou soit c'est Mammon, et alors il recevra une richesse qu'il ne pourra pas emporter avec lui, et qui même déjà maintenant lui causera déjà de grands soucis. En fait, le riche doit voir sa richesse et ses biens comme étant des fleurs d'herbe qui passent rapidement, sur lesquelles il ne peut pas s'appuyer. La consolation ne s'achète pas avec de l'argent. La paix intérieure ne s'achète pas avec de l'argent. On pourrait même parler du sommeil qui ne s'achète pas avec de l'argent. Et l'amour de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent. En fait, j'aime bien parce que la parole de Dieu a une autre image pour celui qui craint l'Éternel. C'est l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui porte des fruits très longtemps, qui est l'image du juste. Et il n'y a qu'une manière d'être juste, c'est d'être justifié en Christ. Et cela s'obtient par une humble foi. Tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Réforme connaissent Romains 1, 17. Donc vous connaissez Romains 1, 17. C'est évident. Ah, vous connaissez peut-être pas l'adresse. Alors je vous dis ce qu'il y a dans Romains 1, 17. Hein. En effet, la justice de Dieu se révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vivre l'humilité, c'est vivre une foi qui produit des œuvres. C'est ça en fait l'humilité, c'est une foi qui produit des œuvres. Et toute l'épître de Jacques souligne cela. Une foi humble. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Jacques 4, 6. Ces thèmes sont entremêlés dans toute l'épître, en fait. Ainsi, lorsque nous vivons dans la réussite, où nous avons un peu de richesse, eh bien, souvenons-nous d'un texte. Il y a un texte qui peut vraiment nous aider, hein. Vous savez lequel c'est ? 1 Corinthiens 4, 7. Exact ! Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Eh bien, dans les moments où, quelque part, on commence à faire les malins sans penser de qui on a reçu tout ça, eh bien, humilions-nous de voler la gloire de celui qui donne chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque connexion neuronale. Glorifions celui qui donne la vie. Vous savez le psaume 115, verset 1, qui dit, comment il commence déjà ? À Dieu soit toute la gloire. Ça m'échappe. Mais c'est en lien avec la gloire de Dieu qu'on veut donner à Dieu. Non pas à nous, voilà, c'est ça. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, exactement. À cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Et la suite dit ceci. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Pourquoi les nations disent ça? C'est quand on ne dit pas que ça vient de Dieu. Si toutes les réussites que vous avez, vous dites autour de vous, je suis tellement content d'avoir réussi ça, et que vous ne parlez jamais de Dieu, puis qu'un jour vous dites, ah ben, toute chose vient de Dieu, il dit, mais il est où ton Dieu? Je l'ai jamais vu. Vous comprenez l'idée? Donc, humilions-nous de voler la... Il ne faut pas faire toute une prédication, hein, il n'y a pas besoin. Je peux dire, moi, je suis reconnaissant à celui qui m'a donné la force de vivre cela. Tout simplement. Donc, plaçons notre assurance en Dieu. Et lorsque tout à coup, la richesse, une richesse ou une capacité nous est enlevée, eh bien, ne réagissons pas avec horreur, ne rouspétons pas contre la providence de Dieu, mais cherchons plutôt à voir comment et pourquoi Dieu fait cela pour nous pousser à être toujours plus proche de lui. Parce qu'en fait, c'est pas ce qui est visible qui est le plus important. Ça va passer. C'est ce qui est invisible. La présence de Christ sera une humiliation, c'est vrai pour certains. Parce que les autres riches qui ne connaissent pas Jésus-Christ se moqueront d'eux. Les mépriseront, ne comprendront pas qu'ils peuvent faire confiance dans un homme qui a vécu il y a tellement longtemps. Qu'ils peuvent même se retrouver dans des rassemblements avec des gens qui sont pauvres sans intérêt aux yeux du monde. C'est vrai. Mais quelque part, c'est une gloire. Parce que c'est là que Dieu nous rassemble. Que pouvons-nous donc apprendre de tout cela et comment devrons-nous traiter alors les pauvres et les riches? C'est notre dernier point, rapidement. Ce texte nous permet de comprendre que pour être accepté de Dieu, donc élevé, il n'y a pas de considération de rang social, de santé, de richesse. Chacun, même le pauvre, est bienvenu. Il n'est pas dit ici que le riche n'est pas élevé. Il est juste dit ici au riche qu'il doit se glorifier de son humiliation. Ça, c'est en lien avec ce qu'il vit. Aucune différence devrait caractériser notre attitude envers toute personne qui veut entendre l'évangile et toute personne qui vient à l'église. C'est tellement important, ça. Aucune différence devrait caractériser notre attitude envers toute personne qui veut entendre l'évangile et toute personne qui vient dans l'église. Et d'autre part, cela nous pousse à voir la vraie richesse de la vie en Christ. Nous n'allons pas promettre à celui qui vient à Christ la santé, la richesse, le succès. L'histoire d'ailleurs démontre que bien souvent, les chrétiens sont méprisés, voire pauvres. Paul dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 1, 27, hein, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Notre réflexe devrait donc être avec ceux qui sont plus modestes. Or, bien entendu, selon les capacités que nous avons, nous allons aussi donner un coup de main, c'est vrai. Et surtout aussi de faire regarder aux richesses qui ne passeront jamais là où ni la rouille ni le ver n'agissent. Ce texte nous pousse aussi à accueillir le riche sans considération et avec le même respect que pour les autres. Ce texte nous pousse aussi à faire comprendre aux riches que tout passe très vite. Et que sa gloire, c'est de se rendre compte de son besoin, de son état de pécheur perdu, qui ne pourra jamais, et ne pourra jamais payer pour être sauvé. C'est sa gloire de dire, mais j'ai compris ça pour que je puisse être sauvé. Pour un riche, c'est sa gloire. Parce que c'est son salut. Il ne doit pas avoir peur, mais plutôt être fier d'être assimilé à ceux qui suivent Christ. De qui on s'est moqué, mais qui est ressuscité, et qui nous prendra dans sa gloire. En fait, la richesse au jour du jugement ne servira à rien. On ne peut pas acheter un juge incorruptible. C'est pas possible. Mais vous savez quoi? Le sourire de Dieu, l'œuvre de Christ, sont la richesse de celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Il est riche dans l'économie du ciel, si vous voulez. Lorsque le coût des péchés sera prononcé lors du jugement, le riche qui n'aura pas voulu s'humilier, n'aura pas assez de toute sa fortune pour couvrir ses frais. Alors que la personne de condition humble en Christ pourra s'avancer et dire que le prix a été payé. Paul dira aux Philippiens, « J'ai appris à me contenter dans l'état où j'étais. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce n'est donc pas premièrement une question du montant de votre compte en banque, mais une question d'attitude et de foi. Dieu connaît exactement le montant de votre compte en banque. Désolé si vous vouliez que personne d'autre le sache. Il le sait, il le connaît exactement. Et il sait ce que vous êtes capable de gérer pour sa gloire. Cherchons donc à nous abaisser avec Christ devant le monde et nous élever avec Christ devant Dieu. Et à la fin, la gloire de Christ sera annoncée devant tous. En conclusion, j'aimerais que nous rendions compte, en fait, que tous nous vivons un peu les deux aspects soulignés dans ce texte. Face à notre péché, face à l'attrait du monde, face à notre orgueil, nous sommes appelés à nous réjouir, de nous humilier, de mourir à nous-mêmes, vivre la repentance, comprendre que nous n'avons aucun mérite devant Dieu. Donc lorsque cette semaine, vous aurez le désir de vous appuyer sur votre richesse, sur votre santé, sur vos biens, ou que votre cœur se retournera vers quelque chose de franchement mauvais selon Dieu, c'est l'avertissement pour les riches qui devraient vous revenir. Réjouissez-vous de pouvoir vous repentir. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Et si cette semaine, vous vous sentez découragé, que vous vous demandez comment vous allez boucler la semaine ou payer les factures, si vous vous sentez méprisé ou rabaissé par les autres, si votre situation vous paraît insupportable, c'est l'encouragement aux frères de condition humble qui devrait vous revenir. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. En Christ, nous avons déjà un statut élevé actuellement. Il nous a choisis pour être ses enfants, ses héritiers. En fait, les douleurs que nous vivons vont passer comme la richesse de celui qui est à côté de nous. Et je vous assure que lorsque vous saisissez ce que vous êtes en Christ, que vous preniez du temps avec lui dans la prière, votre journée va changer. Et en fait, ceux qui pratiquent la pensée positive ont compris une partie de cela. Ils ont compris qu'en fait, le fait de voir les choses d'une bonne manière aide. Mais ici, c'est bien plus que cela. C'est une relation libératrice remplie d'une espérance certaine et pas des suggestions. C'est la grande différence. Venez à Christ, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il vous donnera le repos de vos âmes, car il est doux et humble de cœur. Vous pouvez méditer Matthieu 11, versets 28 à 29. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, et cet épître de Jacques nous pousse à réfléchir autrement que ce que le monde veut que nous réfléchissions. Cet épître nous pousse à réfléchir d'une manière à vivre comme cela te plaît, à avoir un objectif de devenir toujours plus saint, de s'éloigner de ce qui nous fait stagner ou même nous retire de ta présence. Et j'aimerais te remercier et te louer parce que tu es celui qui peut nous rejoindre dans toutes nos circonstances, que ce soit des circonstances de grandes difficultés ou de pauvreté, eh bien tu es celui qui vient nous relever et nous montrer la grandeur de ce salut que tu donnes en Jésus-Christ. Tu nous donnes la grâce de pouvoir voir plus loin que juste les prochaines heures ou les prochaines semaines, en sachant que tu es ce Dieu qui a un plan pour nous. Parfois même tu nous permets et tu nous pousses à regarder en arrière pour nous rendre compte que tu as pris soin de nous jusqu'à maintenant. Pourquoi ne le ferais-tu pas dans les jours qui viennent? comme tu as dit dans ta parole, que tu es venu, tu as accompli le salut en Jésus-Christ par sa mort à la croix, et tu ne t'arrêtes pas là. Tu es celui qui veut nous sauver complètement. Non seulement une action dans le passé, mais nous garder dans ton salut jusque dans l'éternité. Te remercions pour ces encouragements. Seigneur, tu vois aussi que parfois nous sommes plutôt dans une situation où nous avons besoin d'être exhortés, où notre confiance s'éloigne de toi, se place sur des éléments qui vont disparaître. Ô Seigneur, donne-nous de ne pas accrocher notre corde à un glaçon. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de saisir réellement et de nous placer dans la forteresse que tu es. Te demandons pardon, Seigneur, pour les fois où nous avons placé notre confiance dans les biens et que notre vie même a été dirigée par ce désir de s'enrichir, d'avoir plus, d'être au-dessus, d'avoir un nom, d'être reconnu. Seigneur, nous te prions de nous donner cette grâce de nous réjouir alors que tu nous humilies, que tu nous montres que nous sommes, mais quelque part rien du tout, nous ne méritons absolument rien. Et que nous puissions, Seigneur, être heureux de comprendre cela, parce que cela nous pousse vers toi, et nous pousse vers ton salut. Et dans tous les cas, en fait, nous permet de venir à Christ. Soit pour nous permettre de, quelque part, tomber de notre petit nuage, pour nous rendre compte que, mais non, c'est lui qui est bien plus élevé que nous, et c'est vers lui que nous voulons venir. Et bien lorsque nous sommes au fond de la fosse, et bien de savoir qu'en Christ, nous sommes élevés. Oh, quelle grâce, Seigneur, que Christ est le centre de toutes mes pensées. Je te prie vraiment de nous garder cette semaine, de nous garder fidèles face à toutes ces épreuves et ces tentations des biens de ce monde, afin que nous puissions, Seigneur, utiliser, gérer ces biens d'une bonne manière. Tu connais, Seigneur, nos capacités, et nous te faisons aussi confiance que tu nous confies ce que nous pourrons gérer pour ta gloire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.